Chapitre 10. Deux sœurs vivaient en paix. Les innocents, ça n'existe pas. Par contre, il existe différents degrés de responsabilité. Stieg Larsson. 1. La route qui mène de Phalsbourg à Nancy est un grand vide, intemporel et rassurant. Au volant de son vieux 4x4, Karadec appréciait cette monotonie qu'il trouvait reposante. Les pâturages, les troupeaux, les odeurs d'engrais, les champs qui succédaient aux champs, et les tracteurs qui se traînaient sur l'asphalte et qu'il n'était jamais pressé de dépasser. Sur son tableau de bord, les reflets kaléidoscopiques du soleil. Dans son autoradio, le jazz raffiné et minimaliste du trompettiste Kenny Wheeler. Au gré de ses déplacements, le CD tournait en boucle dans sa voiture depuis 10 ans. C'était le dernier cadeau que lui avait fait sa femme avant de partir. Avant de mourir. Pendant tout le trajet, Marc pensa à ce que lui avait raconté le gendarme. Il se repassait mentalement leur conversation, comme s'il l'avait enregistrée. Il laissait décanter leurs échanges. Il les digérait. Il se félicita d'avoir suivi son instinct. Tout de suite, il avait eu l'intuition que Muselier était un témoin essentiel, que les premiers enquêteurs avaient sous-estimé. Il savait que le gendarme lui avait menti, mais tout restait à faire pour le coincer. Alors qu'il débarquait dans l'agglomération nancéienne, il hésita à laisser un message sur le répondeur de Raphaël. Non, trop tôt. Il préférait attendre d'avoir davantage d'éléments concrets. Arrivé au centre-ville, il eut la tentation de se garer en warning devant la librairie, mais il y renonça. Pas raisonnable de prendre le risque de se faire embarquer la voiture. Il trouva une place au parking Saint-Jean, près de la gare et du grand centre commercial, une construction mastoc, tout en béton, qui datait des années 1970. Il quitta à pied ce quartier sans charme, défiguré par les travaux. Gris, terne, morne, dévitalisé. Il gardait de Nancy une image négative. C'est pourtant là, en 1978, qu'il avait rencontré celle qui allait devenir sa femme. À l'époque, jeune inspecteur, comme on disait alors, frais et moulu, de Cannes-Écluse, Marc s'était rendu à reculons à une formation professionnelle d'une semaine organisée sur le campus de lettres et de sciences humaines de la fac de Nancy. C'est là, dans un amphithéâtre, lors d'un changement de cours, qu'il avait croisé Élise. Étudiante en lettres classiques, elle avait 20 ans et vivait dans une chambre universitaire de la rue Notre-Dame de Lourdes. Marc travaillait à Paris. Pendant 2 ans, en attendant qu'Élise termine sa maîtrise, il avait fait la navette entre les deux villes. Il se souvenait de certains soirs où, sur un coup de tête, il quittait la capitale et partait la rejoindre, fonçant insouciant vers Nancy, au volant de sa R8 Gordini. Il sentit ses yeux s'embuer. On ne vit ces trucs-là qu'une seule fois, mais sur le moment, on prend rarement conscience de leur valeur. Et c'était l'un des drames de la vie. Bordel. Il ne devait pas ouvrir les vannes des souvenirs. Il devait les endiguer, se battre contre eux au corps à corps, ne pas leur céder un pouce de terrain, sinon il était foutu. Il cligna des paupières, mais l'image d'Élise s'incrusta devant ses yeux. Une vraie fille de l'Est. Un visage affirmé et mélancolique. Des cheveux cendrés. Des yeux de cristal. Au premier abord, une beauté froide, lointaine, presque inatteignable. Mais dans l'intimité, elle savait être tout le contraire. Drôle, attachante, enthousiaste. C'est Élise qui l'avait initiée à la littérature, à la peinture et à la musique classique. Exigeante, mais pas snob, elle avait toujours un livre à la main, un roman, un recueil de poésie, le catalogue d'une exposition. L'art, l'imaginaire et les chimères faisaient partie intégrante de son monde. En lui donnant accès à cette dimension sensible, Élise l'avait transformée. Grâce à elle, Karadec avait eu une révélation. Le monde ne se limitait pas à la réalité sordide de ses enquêtes. Le monde était plus vaste, plus insaisissable, plus vertigineux. Alors qu'il déambulait dans la ville, Marc sentait qu'il était en train de perdre le combat. Dans son portefeuille, il ouvrit le compartiment réservé à la monnaie et en tira une barrette de l'exomile qu'il coupa en deux. Sa dernière cartouche. Un comprimé sous la langue. La chimie à la rescousse pour ne pas sombrer. Pour circonscrire la douleur de ne pas avoir été capable d'aimer Élise avec plus de force. Pour ne pas avoir été capable de la retenir. Les effets du comprimé se firent sentir presque immédiatement. Les visions se firent moins agressives. La tension baissa d'un cran. Tandis que les images de sa femme s'étiolaient, les mots de Flaubert qu'elle affectionnait lui revinrent en mémoire. « Chacun de nous a dans le cœur une chambre royale. Je l'ai murée, mais elle n'est pas détruite. » 2. En cet après-midi de fin d'été, le passé sordide de Bilberry Street paraissait si loin qu'on eût pu le croire inventé. Les feuilles bruissaient sous la brise qui chuchotait une chanson douce à l'oreille des passants. Comme un peintre impressionniste, le soleil déposait ses écailles d'or sur les palissades, peignant un tableau à la fois mélancolique et chaleureux, quelque part entre Norman Rockwell et Edward Hopper. Au numéro 299, sur le perron de leur maison, deux femmes noires prenaient le frais en surveillant une petite fille et un préadolescent qui faisaient leurs devoirs sur une table de jardin.
« Vous cherchez quelque chose, monsieur ?»
Celle qui m'avait apostrophé, la plus âgée, devait être Angela, la sœur aînée de Joyce Carlyle. « Bonjour, mesdames. Je m'appelle Raphaël Barthélémy. J'aurais souhaité vous poser quelques questions sur... »
Elle se braqua tout de suite. « Vous n'êtes pas journaliste, au moins ?»«
Non, je suis écrivain. » C'est quelque chose qui me frappait tout le temps. À quel point la plupart des gens détestaient les journalistes alors qu'ils aimaient plutôt bien les romanciers.
Des questions sur quoi ?
Sur votre sœur, Joyce. D'un geste vif et nerveux, elle balança une gifle dans l'air comme si elle chassait une guêpe.
Joyce est morte depuis 10 ans. Qui êtes-vous pour vous croire autorisé à troubler sa mémoire ?
Angela avait une voix grave et ferme. Elle ressemblait à une actrice des films de Blaxploitation. Look afro, cheveux nappis, crépus et bouffants. Une Pam Grier vêtue d'un t-shirt coloré et d'un blouson en cuir sans manches. « Je suis navré de raviver des souvenirs douloureux, mais j'ai peut-être des informations qui pourraient vous intéresser. »«
Quelles informations ?»«
À propos de votre nièce, Claire. » De la braise rougeoya dans ses yeux. Elle bondit de son rocking chair pour m'insulter.
« J'aime pas ton chantage, Blanc-Bec. Si t'as quelque chose à nous apprendre, dis-le-nous tout de suite, sinon arrache ton boule !»
Gladys, la plus jeune, vint à ma rescousse.
« Laisse-le parler, Angie. Il a une bonne tête. »«
Une bonne tête de parasite, oui !»
cria-t-elle. Et elle rentra dans la maison en emmenant les deux enfants comme si elle cherchait à les mettre à l'abri. Je discutai plusieurs minutes avec Gladys. Elle avait un style plus classique que sa sœur, qui la rapprochait de Claire. Des cheveux longs et lisses, des traits fins, un visage subtilement maquillé. Avec sa robe blanche très échancrée, qui ne laissait rien ignorer de ses jambes nues, elle me rappelait la pochette de Four Seasons of Love. L'album disco de Donna Summer figurait dans la discothèque de mes parents et avait émoustillé mes très jeunes années. Affable et curieuse, elle accepta de me parler de sa sœur décédée. Sans se faire prier, elle me confirma ce que m'avait raconté Marlène Delatour, la journaliste de West France. Joyce Carlyle était bien morte d'une overdose, moins d'un mois après l'enlèvement de Claire. Après toutes ces années d'abstinence, Joyce avait brutalement replongé. Comment lui en vouloir ? Elle était dévastée par la disparition de sa fille. Mais au moment de son overdose, il restait encore un espoir de retrouver Claire vivante. Le stress et le désarroi la consumaient. « Vous avez des enfants, monsieur Barthélémy ?» Je lui montrai la photo de Théo sur mon téléphone.
« Il respire la joie de vivre !» s'exclama-t-elle. « Il vous ressemble beaucoup !»
C'était stupide, mais la remarque me faisait plaisir chaque fois. Comme je la remerciais, la porte de la maison s'ouvrit. Angela réapparut, un album sous le bras, et vint nous rejoindre. Elle s'était calmée et se mêla d'elle-même à la conversation qu'elle avait manifestement suivie de derrière sa fenêtre.
Si vous voulez comprendre, Joyce, vous devez toujours garder une vérité à l'esprit. Notre sœur était une exaltée, une passionnée, une amoureuse. C'est un trait de caractère qui n'est pas le mien, mais que je respecte.
La phrase d'Anatole France résonna dans ma tête. J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. Pensive, Angela s'éventa avec l'album qu'elle avait rapporté.
Plus jeune, Joyce s'était souvent brûlé les ailes, poursuivit-elle. Avec la naissance de Claire, elle s'était rangée. C'était une femme cultivée et une bonne mère. Mais elle avait cette étincelle noire, cette pulsion autodestructrice que certaines personnes portent en elles. Une sorte de bête intérieure que vous pouvez parfois domestiquer pendant des années jusqu'à croire que vous l'avez terrassée. Mais la bête ne meurt jamais, et l'étincelle n'attend que l'occasion de se rallumer.
Vous n'avez rien vu venir ?
J'imagine que pendant cette période, elle devait être très entourée. Elle me regarda avec une tristesse infinie dans les yeux. C'est moi qui ai retrouvé Joyce sur le sol de la salle de bain, avec une seringue plantée dans le bras. Et sans doute suis-je un peu responsable de sa mort.